Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio de Radio Foot International sur RFI, la radio mondiale qui vous tient compagnie en cette fin d'après-midi. Et nous commencerons par des Bleus enfin victorieux. L'équipe de France a rassuré ses supporters et sans doute Didier Deschamps en remportant son match face à la Finlande avec des attaquants en fin d'attaque et un grisou des grands soirs, on en redemande. En Afrique, les mondialistes Sénégal, Nigeria ou encore Tunisie s'en sortent bien. Un peu moins l'Égypte, désormais emmenée par Carlos Queiroz. Victoire plutôt logique donc de ces mondialistes, mais nous parlerons aussi des chevaliers de la Méditerranée, des Morabitoun et des Barea. Invité dans ce studio pour leur lumière justement sur tous ces sujets africains, Franck Simon. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Toujours au rendez-vous avec plein d'anecdotes. Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Ouais, heureux d'être là.
Alors vous serez du répondant je pense face à notre ami Franck J'espère. Simon. Et puis Naïm Moniol.
Salut bonjour, Annie, Naïm. Salut à tous.
Je savais pas qu'il fallait venir avec des gants.
Du répondant,
de gardien, pas... du gardien, ah, oui. De gardien,
vous,
bien entendu.
Mais vous, vous les avez toujours sur vous, même dans la
bien
tête.
Sûr.
Cédric de Oliveira est avec nous. Bonjour Cédric.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Arrivé directement de Lyon, où il a eu le privilège d'assister au match. Avant de lancer cette émission, nous avons une pensée pour Olivier Dubois. 5 mois d'enfermement pour l'otage français du Mali, notre confrère. Alors j'espère que RFI vous distrait, vous aide à tenir. Tenez bon, beaucoup de monde vous attend. Radio Foot, c'est parti.
Martial, Benzema.
Oh oui,
Griezmann.
Signé Antoine Griezmann.
Benzema, oui. Léo Dubois. Griezmann, qui va pouvoir ce ballon. Et de l'intérieur du pied, cette fois-ci, le placer dans le petit filet opposé. Doublé ce soir pour le Mâconnais face à la Finlande. 2-0.
Un stade en folie devant le spectacle offert par les Bleus qui avaient déjà accueilli bruyamment les joueurs et particulièrement les deux enfants du pays. Karim Benzema, le Lyonnais de retour avec la tunique des Bleus sur cette pelouse lyonnaise, on va dire. Mais aussi Antoine Griezmann qui, lui, vous avez entendu, le Mâconnais. Il est donc de Mâcon et ce n'est qu'à 70 km du parc OL. 57 057, ça ne s'invente pas, c'était le chiffre officiel. Cédric, dans le stade, c'était une ambiance des grands soirs à Lyon.
Oui, ça faisait évidemment assez longtemps qu'on n'avait pas vu ça, en tout cas depuis la pandémie de Covid-19, évidemment. Oui, très belle ambiance dans ce parc OL, puisque donc et surtout pour Karim Benzema, à chaque fois que Karim Benzema touchait le ballon, il y avait un petit frémissement. Voilà, on attendait beaucoup de Karim Benzema du côté du public. Et puis il y a eu aussi une très belle Marseillaise a cappella. Voilà, ça faisait plaisir à voir. Il y avait beaucoup de familles qui étaient là puisque c'était à la veille d'un mercredi, donc il y avait beaucoup d'enfants. Voilà, très très agréable soirée au Parc OL qui s'est bien terminée pour l'équipe de France.
Oui, bien terminée. Et bien aussi, ils étaient venus pour voir Karim Benzema. Et bien les supporters que vous avez rencontrés, en tout cas certains, étaient heureux du spectacle que leur a offert KB9. Ils ne l'ont pas oublié.
Bah on est à Lyon, on attend Karim Benzema.
Hein. Kabedwebe, hein, c'est un peu le retour du fils prodige à Lyon.
Ça fait trop longtemps qu'on a envie de le voir jouer à Lyon et on est content qu'il revienne.
Vous voyez jouer à Gerland quand on était petit. Là c'est le retour à la maison. C'est le groupe à moi, c'est la première fois qu'il revient jouer là. Nous on l'avait quand on était à Gerland. C'est le GON, c'est nous qui l'avons formé. C'est le pur produit lyonnais.
Le départ est la force du centre de formation.
Il a bien joué avec ses partenaires, notamment avec Griezmann, ils se sont bien entendus sur le terrain.
Il lui manque le but quoi, mais il était pas loin, voilà. Il a fait beaucoup de passes. Il a été là pour ses collègues, mais il lui manque le but.
On attendait Benzema de pied ferme et il a répondu présent au Groupama Stadium. Ça fait plaisir de le voir comme ça.
Super altruiste, magnifique, ultra technique, rien à dire. Super fort. Non, ça m'étonne pas que Ronaldo marque tant de buts avec lui à côté. Il est énorme.
Alors, dans cette capitale de la cuisine française, n'est-ce pas? Eh bien, on a un pur produit lyonnais qui est Cabé Nueve, quand même. Moi, j'ai dit neuf, mais évidemment, ah oui, le Nueve de Madrid, oui. Mais c'est vrai que ils étaient heureux de le voir en chair et en os, mais surtout, on a vu un Karim Benzema, je dirais, tel qu'on le voit d'ici. Et quand on voit ce qu'il fait à Madrid, c'est-à-dire celui qui est au service des autres. Et on l'a vu si longtemps avec Cristiano Ronaldo, bien sûr.
Ouais, c'était assez impressionnant, en tout cas, de le voir même en vrai, donc au stade. Oui, à chaque prise de balle, vraiment toujours juste, toujours dans le rythme, toujours dans le bon tempo. Il s'est vraiment très très bien trouvé avec Griezmann. Il y a eu de multiples combinaisons. Ça a donné donc ces deux buts, mais ça aurait pu même donner beaucoup plus. Il y a eu ce fameux double 1-2 avec Martial qui est venu également dans cette combinaison. Ça aurait pu être un début de l'année. Vraiment, Benzema, voilà, effectivement, je crois qu'il y a un supporter qui le dit dans ce micro-trottoir, bah, il lui manquait plus qu'un but.
Oui.
Et on l'a beaucoup attendu.
On a failli, hein, jusqu'au bout.
On lui a même offert un coup franc à quelques minutes de la fin. Bon, il a tiré directement dans le mur, Karim Benzema, mais voilà, très belle soirée pour lui. En tout cas, même s'il n'a pas marqué, Karim Benzema qui a au moins, en tout cas, évacuer les doutes, même si on avait, en tout cas, dans ces dernières semaines.
Celui qui lui a un peu volé la vedette, enfant du pays aussi, et qui a inscrit de magnifiques buts, c'est donc l'ex et futur Colchonero, heureux sur la pelouse et heureux à la fin du match, de la prestation des siens. C'est évidemment Antoine Griezmann.
Ça faisait 5 matchs où on ne gagnait pas, donc c'était la victoire absolument. Et voilà, on a bien commencé le match. Ensuite, voilà, défensivement, on a été costaud, je trouve. Et après, 2 buts, donc très, très très heureux et voilà, une victoire qui va faire du bien. Et maintenant, penser à la demi contre la Belgique. On était contents d'être ici. En plus, dès l'échauffement, on a vu que les Lyonnais étaient à fond derrière nous, donc ça nous a fait du bien. Et après, on avait envie de tout donner sur le terrain pour eux aussi.
Une victoire, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas, Cédric? Mais là, on a eu l'impression qu'avec cette équipe de France hier, d'abord, on va se placer un peu sur le plan global de ce match, tout fonctionnait.
Oui, ça s'est mieux passé effectivement que les 5 matchs d'avant. Ça faisait quand même 5 matchs nuls consécutifs.
Oui, il le dit, Griezmann, 5 matchs nuls.
En comptant l'euro et surtout à chaque fois en concédant l'ouverture du score. Donc il y avait une fébrilité qu'on a quand même vue en première période. Il y avait des passes qui étaient mal ajustées, une passe de Varane qui va directement en touche. C'était pas très fluide, et puis après ça s'est enclenché, en tout cas notamment grâce à Benzema et Griezmann. Ça s'est mieux passé, surtout Deschamps, en tout cas ces choix là, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais ont été payants. Cette défense à 3 qui n'avait pas fonctionné face à la Suisse a marché, et surtout les latéraux Dubois et Théo Hernandez qui ont apporté donc suffisamment de d'allant offensif et de poids, et puis Griezmann en 10 derrière les deux attaquants. Des choix qui ont payé, et ça a donné cette première victoire effectivement depuis un moment. Ça fait du bien pour l'équipe de France.
Patrick Juillard, peut-être doit-on relativiser, ce n'était que alors des grands-ducs, nous précise-t-on, des hiboux grands-ducs, et c'est plutôt majestueux, mais ce n'était que la Finlande en face. Mais
attention, la Finlande nous avait battu en amical il y a moins d'un an,
au Stade de France. Mais
je
alors voilà,
on a depuis 5 matchs, on ne boute pas notre
exactement. En fait, je pense que ce qui était le plus important hier soir, c'était de se remettre dans le bon sens.
C'est ça, c'était de se remettre dans le bon sens. Et malgré tout, il faut souligner qu'il y a eu une prise de risque avec le retour au schéma à 3 derrière, qui est de sinistre mémoire. Mais on s'aperçoit que quand on met dans les couloirs des joueurs spécialistes du poste, à savoir Théo Hernandez et Léo Dubois, qui ont peut-être des limites, mais qui sont de vrais spécialistes du poste, ça marche mieux que si vous mettez Rabiot, qui est un milieu axial, bon, qui peut dépanner, mais qui n'est pas un spécialiste du poste, et un joueur comme Koundé ou Pavard, qui est au mieux un latéral dans une défense à 4, mais certainement pas un piston. Donc voilà, ça aide quand on a les bons joueurs,
les joueurs
au bon poste. Tout simplement, c'est pour moi la leçon de ce match est là. On peut faire tous les schémas qu'on veut, on peut jouer à 3 derrière, on peut jouer un schéma en 3-6-1 à la Bielsa. La seule préoccupation, c'est que quand on a un effectif aussi vaste que celui de l'équipe de France, on fasse au minimum jouer à chaque poste un joueur qui est fait pour ce poste. Voilà.
Naïm, c'était aussi peut-être la réaction, je sais pas, d'orgueil d'une équipe acculée, même si il l'avait bien précisé, Didier Deschamps, on s'en souvient, à l'issue de l'avant-dernier match, il avait dit, mais attendez, les champions du monde, il y en a que 3 finalement sur la pelouse 2018.
Non mais Deschamps peut pas être responsable de tout, il a des responsabilités, mais je dis toujours en priorité, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Ouais. Et si depuis 5 matchs on n'est pas bon, c'est aussi parce que les joueurs sont pas bons. Alors là, il y a des joueurs qui sont en méforme parce que ça va pas dans leur club. Il y a des joueurs qui sont en méforme parce qu'ils sont pas à leur poste, donc qui sont là parce qu'ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Hier, ce qu'on a vu, moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'au-delà d'avoir des joueurs à leur poste, on a surtout vu une vraie identité collective. Ce qu'on avait souligné sur les matchs d'avant, on le voyait plus. C'était chacun jouer un peu pour sa tronche. Moi, je vais briller en faisant une grande passe. Moi, je vais briller en faisant un geste. Moi, je vais briller en faisant un tir. Mais on avait perdu le lien collectif qui faisait que l'équipe de France pouvait faire peur sur certains matchs à certaines périodes. Hier, on l'a revu. Vous avez beaucoup parlé de la relation entre Benzema et Griezmann parce que c'est les deux qu'on a vu le plus. Mais le travail des latéraux, Pogba a été bon, la défense à trois a marché. Même Martial, qui a aussi des vraies limites dans le jeu. Je pense que quand Mbappé reviendra, il sortira également de l'équipe. Même lui a fait des efforts qu'on n'a pas l'habitude de le voir faire. Donc moi, c'est surtout ça qui m'a fait plaisir. Et en fait, c'est l'état d'esprit parce que le talent, on peut être moins bon sur certaines périodes, mais on sait qu'on l'a. L'équipe de France a
surtout
du talent.
Par rapport à la Finlande.
Voilà. Et même par rapport à la Bosnie, même par rapport à l'Ukraine. Ce qui nous faisait défaut dernièrement, c'était l'état d'esprit, c'était, ça allait pas bien dans la tête. Hier, ça allait beaucoup mieux.
Franck, vous aussi, vous avez pris plaisir à voir cette équipe de France finalement se comporter vers l'avant, se porter vers l'avant et se comporter peut-être un peu comme le veut son prestige.
Je dois vous dire la vérité. Je n'ai pris aucun plaisir pour la bonne et simple raison que je n'ai pas vu le match. Et donc, je me suis contenté de larges extraits. Donc, autant jouer la carte de la franchise. Hein. Je ne vais pas vous raconter des cracks. Mais de ce que j'ai vu, effectivement, je me retrouve dans les commentaires de mes collègues, de ce que j'ai pu lire aussi des analystes. Je pense à mon collègue de l'équipe, Vincent Duluc, qui se trompe plutôt rarement dans l'analyse technique tactique. Effectivement, cette équipe, elle a retrouvé ce pourquoi elle est faite, pour jouer, quoi. Et
mais voilà.
Oui, elle s'est retrouvée. Et en même temps, tous l'ont dit autour de la table, c'était la Finlande, quoi. Si tu n'es pas capable, même avec si peu de champions du monde sur le terrain, de battre la Finlande, il y a quand même un vrai problème.
Ouais, mais rappelle-toi,
t'as du talent quand même.
Franck, rappelle-toi à quel point on a été laborieux face au Kazakhstan.
C'est pas être arrogant, Naïm.
Non, mais j'ai bien compris.
Je respecte effectivement cette équipe. Tout à l'heure,
ce que tu dis.
Pat a évoqué effectivement cette défaite. Respectons, ils étaient à l'euro.
Quel état d'esprit tu le dis, mais rappelle-toi à quel point on a été laborieux face au Kazakhstan lors de la première fenêtre. Je te l'ai dit, on peut pas bouder notre plaisir. La vérité, c'est que la Finlande, c'est pas terrible. Mais en vérité, l'Ukraine et la Bosnie, c'est pas dingue non plus. Il y a des joueurs qu'on connaît parce que t'en as un ou deux qui jouent dans des clubs.
Donc, ce sont des points qui ont été abandonnés.
Mais on a une fois de plus, un groupe qui est largement à notre portée.
Surtout quand, là, ça fait quand même 7 points d'avance, là, sur le reste. Ça veut bien dire que,
c'est pas le même niveau de rencontres disputées, là.
Oui,
sur ce
bien sûr.
Hein,
mais il y a quand même un gros gap.
De toute façon, on va pas se faire peur parce que c'est ridicule. La Coupe du Monde, on va y aller. On y allait, j'ai certainement pas inquiet avant cette fenêtre internationale.
Si on évitait les barrages, c'est toujours mieux.
Oui, mais puis a priori, on pourrait même y aller sans passer par les barrages via le
truchement. Non, mais là, après, vraiment, le plus important, c'était limite de retrouver la confiance.
On n'est pas inquiet sur l'issue du groupe, mais ce qu'on a vu sur les dernières semaines était très inquiétant pour la suite, parce que la Coupe du Monde n'est que dans un an et demi, finalement.
Et on se dit, c'était peut-être un mauvais
moment. C'est une étape.
C'est aussi rassurant pour Deschamps, dont les choix ont été payants, alors qu'ils ne l'avaient pas été sur les précédents.
Deschamps qui va récupérer, a priori, des joueurs dans la prochaine fenêtre internationale.
Avant qu'on parle de Deschamps et de ses choix, je voudrais qu'on s'arrête quand même sur Le Petit Prince, qui est de retour, Naïm.
Daniel Bravo.
Ça, c'est pour moi. C'est pour toi.
Le Petit Prince de 2021.
Non, Annie. Il n'y a qu'un seul petit prince.
C'est Daniel Bravo.
Tu es d'accord,
Pat. Né à Cugnot en 1960.
Pour moi, c'est celui de Saint-Exupéry, mais après.
Oui.
En tout cas, il a égalé le record d'un certain Michel Platini, 41 buts inscrits en 98 sélections et en 72, signalons-le, pour Platini. Et c'est donc, Antoine Griezmann, un joueur plutôt heureux.
J'espère continuer à kiffer, que ça soit défensivement ou offensivement, que ce soit avec des buts, des passes, des ballons à récupérer. Donc voilà, continuer comme ça et être toujours là pour l'équipe.
Bon, moi je le vois heureux, lui il dit qu'il kiffe.
Il kiffe la life,
c'est pareil.
Naïm, vous qui kiffez sûrement, le kiffez en tout cas ce joueur.
Il est indispensable. Et moi je le soutiens à 1000%, même quand il va pas bien. Il est indispensable, c'est le seul joueur qu'on a.
Il va mieux.
Oui, il va mieux, mais même quand il était moins bon, la vérité, c'est qu'en fait, tout le monde est tombé sur Griezmann de manière malhonnête. Même quand il était moins bien, il était efficace. Il faisait des passes décisives, il marquait des buts, il provoquait des pénaltys, des corners intéressants. Là, hier, il a montré toute l'étendue de son talent parce qu'il était à la bonne place, mais C'est le seul joueur qui est capable de garder le ballon de haut but, qui sait dribbler, qui sait construire, qui redescend, qui fait monter
Benzema
le bloc.
Pour garder c'était le déjà le cas en 2018.
Ouais, mais Benzema il descend beaucoup moins et il joue plus sur une touche en déviation. Benzema, c'est le seul joueur qu'on a de ce profil. C'est notre seul leader technique. Faut arrêter de penser que c'est Mbappé, que c'est Benzema, que c'est Pogba, que c'est je sais pas qui. C'est Griezmann et je m'inscris en faux quand tout le monde le critique parce qu'il a il y a une espèce de courant anti-Griezmann depuis qu'il est parti à Barcelone où tout le monde lui tombe dessus de manière malhonnête. Mais regardez enfin, ce qu'il est capable de faire.
Malhonnête.
D'accord, mais, les, mais non, si, il y a eu un courant malhonnête parce que ouais, entre.
Faut pas grossir la voix. Ouais, voilà,
ah, non, 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 mais non, non, je, là, écoute, je suis franchement pas d'accord.
Quand tu parles de malhonnêteté, c'est pas parce que t'es pas d'accord que les autres sont malhonnêtes.
Mais si, c'est malhonnête de dire. Mais si, c'est malhonnête. Bien sûr que si, c'est malhonnête.
trop fort. 35 buts,
17 passes décisives en 101 matchs et il a raté.
Tovin à l'OM, il faisait les stats aussi, c'est pas pour ça qu'il était indispensable. Ah bon,
parce que Tovin, oui, parce que Marseille, c'est le niveau de Barcelone.
Si on parle que sur les stats, il faut aussi avoir une analyse un peu plus sur le contenu.
Attends, à partir du moment où à Barcelone, tu joues pas et t'es pas à ta bonne place, tu peux te juger que sur les stats.
Bon, après c'est pas que c'est de sa faute à Barcelone.
Vous l'avez vu.
Ah bah moi j'ai pas dit que c'était de sa faute, je le soutiens moi. Donc
À force de sortir les parachutes, des fois ils vont pas s'ouvrir les gars. Hein, c'est, hein, c'est bien de le protéger comme ça. Mais effectivement le rendement n'est pas comparable entre ce qu'il a pu accomplir et ce qu'il reste à accomplir en équipe de France et en club. On est bien d'accord.
Je suis pas en train de te dire qu'il a accompli à Barcelone ce qu'il a fait en équipe de France ou l'Atlético.
On dit le contraire.
Mais entre lui tomber dessus comme ça a été fait mais et qui, parfois de manière malhonnête on bat dessus ici.
Des noms.
Tous tes amis
personne
de l'équipe
ici.
Notamment. Tous tes amis
c'est
de l'équipe notamment.
Ah, c'est pas mes amis d'abord et puis pour l'avoir vu évoluer, pour m'être retrouvé plusieurs fois derrière un micro pour un match à commenter, ben écoute, je suis désolé. J'avais l'impression, comme disait feu Raymond Goethal, c'est le jour et la nuit parce que tu le reconnais pas, alors qu'il a toute cette palette technique que tu as décrite à l'instant. Donc c'était plus le même.
Naïm, on a compris. Cédric, vous étiez au premier rang. Est-ce que vous avez eu la sensation, en plus vous étiez avec tous ceux qui suivent l'équipe de France, peut-être qu'on le commentait, que le fait de partir à l'Atlético, finalement, ça lui a peut-être donné un regain de joie.
Bah, je sais pas si c'est déjà le cas puisque enfin je crois que le transfert a été officialisé pendant le rassemblement de l'équipe de France.
C'est pour ça que je vous dis ça.
Mais en tout cas, a été fait aujourd'hui.
Voilà, voilà. Donc mais en tout cas, peut-être tout simplement, il est indispensable dans ce rôle, il est peut-être moins indispensable quand il est sur un côté où il doit un peu plus compenser, il a beaucoup plus d'influence dans ce rôle-là et forcément ça se traduit mieux sur le terrain. J'avais l'impression en fait que Deschamps, il a pas réussi à choisir ses derniers matchs entre Benzema, entre Mbappé, entre Griezmann, et que du coup, l'arrivée de Benzema lui a un peu, l'a contraint à avoir moins d'influence, Griezmann. Donc du coup, il s'est retrouvé un peu, il se marchait dessus, non, tous ces joueurs. Donc forcément.
Patrick. Pour moi, en fait, Griezmann, et là je rejoins Naïm, même si j'ai pu être en désaccord avec certains de ses termes, Griezmann, en fait, c'est un meneur de jeu. C'est un meneur de jeu et l'équipe de France, quand elle a été forte et qu'elle a fait de grandes choses dans toute son histoire, a toujours eu un meneur de jeu, même si ce meneur pouvait être un joueur qui marquait énormément. Platini, Zidane,
comme par hasard,
Griezmann.
Tu cites l'homme qui rejoint dans les statistiques.
Mmh. Et même si Griezmann, il n'a pas, c'est pas Pirlo, c'est pas un Kalanoglu dans la façon de jouer, un Gundogan, mais
je m'attendais pas à entendre Kalanoglu dans une conversation sur Griezmann, merde.
C'est un joueur qui est un meneur de jeu dans la fonction. Et qui fait mieux jouer les autres quand il est dans l'axe, quand il est pas loin du but.
Donc on est tous d'accord.
Il a pas le coup de rein et la puissance physique pour jouer sur un côté et être aussi bon que pourrait l'être un Mbappé, par exemple. Mais en meneur de jeu, il est indispensable. Il faut faire l'équipe autour de Griezmann, meneur de jeu.
C'est pour remercier Deschamps qui lui a redonné son rôle.
Il
n'y
a pas de question à se poser.
2016 et 2018, je crois, le prouve quand même.
Mais même après, quand il est moins bon, il marque des buts, il fait des passes d'ailes.
Non, mais
en fait, c'est vrai qu'en 2021, c'est quand même celui qui a marqué le plus pour l'équipe de France. Oui. En comparaison, Mbappé, c'est un but en 2021.
Il a ramené 8 points sur les éliminatoires en cours, là. Il a ramené 8 points sur 12.
Moi, vous savez que j'aime pas trop ce.
Oui, mais je m'en fous, ce genre de choses quand même.
Ce genre
il a ramené, il a 8 buts, c'est très bien. Il a ramené 8 points sur 12. Retire 8 points à l'équipe de France. c'est quatrième derrière la Finlande, derrière l'Ukraine, avec des matchs en plus. Donc est-ce que, je te dis pas que tu pourrais pas aller à la Coupe du Monde, mais tu serais dans une situation nettement plus inconfortable. Donc je dis ça aux gens qui pensent qu'il est fini, qu'il faut le mettre sur le banc et le sortir de l'équipe.
J'ajoute juste je rebondis sur ton analyse, j'ajoute juste une chose, si Griezmann n'avait pas joué tous ses matchs, peut-être que le joueur qui l'aurait remplacé aurait aussi rapporté des points à l'équipe de France. Un autre.
Franck.
Qui est aussi fort dans son registre?
Pas moi.
Je dis pas qu'il y en a d'aussi fort, mais il y en a qui sont susceptibles
Franck,
de le remplacer.
Pour, pour terminer,
je les départage.
Qu'il le fasse.
Tout
le
monde a gagné. Pour terminer sur cet ensemble de l'équipe de France, peut-être que on va parler de Didier Deschamps. Deschamps qui s'est dit soulagé, content, heureux. Son équipe a fait de très très bonnes choses. On a eu l'impression surtout que le sélectionneur, il avait peut-être retrouvé, je sais pas, les bons choix. Alors on disait tout à l'heure, écoutons-le parler de ses attaquants et de ce trio.
Pas soulagé, content, heureux, évidemment pour les joueurs, ce qu'on a fait, pour le résultat qui était essentiel pour nous. Et on y a mis la manière aussi avec. Un public qui a été merveilleux, donc c'est important pour les joueurs. La victoire était essentielle dans cette course à la qualification. On l'a obtenue et en faisant de très très bonnes choses, donc c'est plus conforme à ce qu'on est capable de faire, même s'il y a des joueurs différents, des joueurs qui débutent, mais collectivement, la prestation est d'un bon niveau.
Conforme à ce qu'on sait faire. Franck, est-ce qu'il y a eu aussi de la part de Deschamps, parce que on lui apprend pas à faire la grimace, hein, c'est un vieux de la vieille, mais est-ce qu'il a utilisé aussi un ressort psychologique avec ce groupe avec qui quand même il a passé 10 jours là?
Forcément, dans l'intimité du groupe, il y a des choses qui ont dû être évoquées, notamment avec ses leaders. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que face à l'opinion publique, il n'a pas cessé d'avoir un message positif. Il aurait très bien pu leur tomber dessus, hein, ce qu'il a très bien pu faire d'ailleurs en interne. Mais il a gardé ce message positif en disant voilà qu'il fallait pas s'affoler, que la route était encore longue, qu'ils allaient finir par retrouver ce filon en fait gagnant. Ce qui s'est fait, il a fallu patienter. Il était sans doute pas du tout heureux de l'expression collective parce que elle était parfois inexistante dans le jeu offensif, quoi. Donc il y avait des inquiétudes, mais il va pas les traduire comme ça, vous comprenez. Mm-hmm. On peut pas donner des arguments négatifs qui peuvent être en plus utilisés par l'adversité. Évidemment. Donc lui, face à l'opinion, il se devait de défendre son groupe tout en leur tombant dessus.
Il leur a demandé plus quand même,
mais il a eu bien raison, parce que c'était totalement insuffisant. Donc du coup, il en sort pas soulagé, mais il en sort bien, quoi. Pas dire grandi, mais
oui. En tout cas, avec sans doute plus de respect en plus de son groupe finalement, parce qu'il les emmène, quoi. Il les entraîne.
Bah, il est là pour les guide. Il est là pour
bien
les
sûr.
Sélectionner.
Je sais pas
pour
si,
les choisir.
Si Deschamps a besoin d'avoir le respect de son groupe. Je pense que il l'a, mais en tout cas.
Non, mais on avait l'impression qu'il doutait et que peut-être que.
Bah, il a du mal à trouver la bonne formule. Voilà. Déjà parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Enfin, en tout cas, qui n'étaient pas là pendant ce rassemblement. Mais
qui
là,
partent
en tout cas,
en cours de rassemblement.
Voilà, ou qui partent en cours de rassemblement, effectivement. Mais là, c'est sûr que c'est ce qu'on a dit en début d'émission, vous mettez des joueurs à leur poste, ça fonctionne mieux et effectivement la victoire.
Cédric, les joueurs qui manquaient, c'était principalement sur le secteur défensif, mais ce que tu peux reprocher à l'équipe de France, c'était l'utilisation du ballon, c'était au milieu et c'était devant. Au final, bon, Mbappé est parti en cours de rassemblement, mais Mbappé, Griezmann, Benzema, c'est l'attaque que t'auras. T'avais Pogba qui est ton leader au milieu du terrain. Ce qui te manquait réellement, c'était tes latéraux. Bon, Kimpembe, c'est la chose.
Voilà. Il manque Kanté.
Oui, Kanté, oui, mais enfin bon, t'as Pogba quand même. Oui, mais c'est important. Mais je veux dire, t'avais pas un milieu de joueur novice. Toi, t'as pas fait Tchouaméni avec Pépin Lebref, tu vois. Donc, t'avais quand même des joueurs de qualité.
Pépin Lebref, numéro 6. Qui s'invite à l'émission, lui aussi.
Il joue à Lorient, non?
Cédric, en tout cas, dans les nouveaux qu'on avait regardé un peu à la loupe, d'où ils viennent, les choix et tout ça et tout, Théo Hernandez a gagné énormément de points, je suppose.
Oui, bah c'est sûr qu'il a fait forte impression, Théo Hernandez. Alors il y a eu cette action spectaculaire, il a fait un déboulé fantastique là sur le côté gauche que Martial n'a pas réussi à reprendre. Ouais.
Théo Hernandez, voilà. le frère de
c'est bien Lucas Hernandez. Alors voilà, il est
Lucas.
Un peu plus offensif que son frère. Alors est-ce qu'ils vont Ouais, alors ils jouent même poste, oui et non, parce que là on était vraiment sur un piston.
Poste, mais pas dans
et Lucas Hernandez, voilà, il fait partie. Bah le problème en fait, c'est que si on veut jouer comme ça, je ne suis pas sûr que Lucas Hernandez peut jouer en piston. De toute façon, la défense championne du monde, c'est 4 défenseurs centraux. Donc on pourra pas jouer en 3-4-1-2.
Voilà, surtout si on joue à 3 derrière les deux, hein, tu mets Lucas dans l'axe,
t'es exactement, voilà, c'est ça. Exactement. Mais tu les mets dans les 3 défenseurs centraux et après effectivement tu fais jouer les latéraux. Mais
oui, ça dépend peut-être de l'adversité aussi.
Théo à Milan est dans une défense à 4, ça peut l'air de lui poser beaucoup de problèmes.
C'est vrai. Mais en tout cas, pour une première sélection, oui, Théo Hernandez,
puis,
ça s'est bien
passé. C'est une très bonne chose parce que, mine de rien, Deschamps, malgré ce qu'on dit, prend beaucoup, beaucoup de jeunes. Sur les dernières années, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes à chaque
rassemblement. Non, mais il a toujours misé, moi je trouve.
Beaucoup plus après l'Euro. Je pense que, entre 2012 et 2016, il était dans une situation où l'équipe de France était tellement un chantier qu'il essayait de faire ce qu'il voulait avec les cadres. Voilà.
Ça s'est accéléré, on va dire, cette tendance.
Voilà. Derrière, il faut dire qu'il y a tellement de joueurs qui sont arrivés aussi à un moment donné, t'as l'évidence qui s'impose. T'as des joueurs, tu pouvais pas faire autrement que de les prendre. Mais finalement, tu n'en as pas tellement qui ont vraiment convaincu. Même Dembélé, qui est champion du monde, bah, il est tout le temps blessé, il joue moins. Benjamin Mendy, qui est un peu disparu. Kamavinga, ça a disparu. Aouar, ça a pas marché.
De parler pour Benjamin Mendy.
Oui, tu vois.
Un peu disparu.
On ne peut pas rentrer non plus dans les détails. Mais, et finalement, c'est-à-dire que même Tchouaméni, qui a marqué des points, Tchouaméni, normalement, on va le revoir. Donc, c'est-à-dire que ça fait quand même deux mecs qui arrivent, qui vont renforcer des secteurs de jeu et qui, dont sur lesquels tu peux peut-être miser sur du long terme, parce que les derniers qui étaient arrivés, sans dire qu'ils avaient été mauvais, Aouar, ça avait pas convaincu. C'est vrai. Donc, on dit toujours, la France, elle a un super réservoir. Puis finalement, les jeunes qui viennent, ils s'imposent pas tellement.
Quand tu vois les espoirs, c'est sûr que.
Les autres.
Il n'y a pas qu'une question de joueurs, il y a une question d'encadrement technique pour les espoirs.
J'aimerais vous poser.
Il reste le cas Jules Koundé, qui, à mon avis, devrait être vu, mais dans son rôle de défenseur central et non pas
dans une défense dépanneur à droite.
En tout cas, l'opinion de Radio Foot, j'ai envie de dire, on entendait hier des gens qui osaient dire que cette équipe sans Mbappé, elle avait réussi à gagner. J'espère que vous avez envie de couper court à ce genre de considération.
Le talent Mbappé est là, on va pas, ça sert à rien, il est très très fort, il est en avance sur sa génération, même s'il l'est beaucoup moins qu'à une époque. Ce qui manque chez Mbappé, l'interrogation en tout cas qu'on a, c'est est-ce qu'il peut se mettre dans un état d'esprit où il est prêt à jouer pour les autres, ou est-ce qu'à un moment donné,
respecter les consignes,
moment donné, il va partir du principe comme à Paris que c'est lui la star et qu'il faut tout lui plier. Parce que ce qu'on a vu hier, c'est Griezmann, Benzema, il n'y avait pas de star attitude, on jouait ensemble l'un et l'autre et puis avec les autres. Est-ce que Mbappé va se mettre dans cet état d'esprit là, est-ce qu'il va le faire sur du long terme? C'est ça le doute. Le talent, on le sait qu'il a pour jouer.
C'est une bonne interrogation.
Oui. Voilà. Et Franck, peut-être que finalement, alors on imagine qu'il a regardé le match et que peut-être que aussi c'était bien pour Deschamps de pouvoir aussi faire ses choix.
Les circonstances quelque part sont favorables à ce qui s'est passé. Les garçons qui étaient sur le terrain, ils ont fait le boulot. Et effectivement, de ce que j'en ai vu encore une fois, car je n'ai pas suivi le match dans son intégralité, j'ai eu le sentiment d'un vrai collectif, et surtout dans ce secteur clé, l'animation offensive, c'est tellement important, ça a fait défaut passé récent.
En tout cas, lui qui aime bien décrocher et qui a beaucoup décroché lors des derniers matchs, peut-être respecter un peu plus les consignes et participer, jouer avec les autres.
Ma question, moi, c'est est-ce que Deschamps aurait tenté ce schéma en 3-3 derrière si Mbappé avait été disponible pour ce match, oui ou non? Et est-ce que si on rejoue dans ce schéma qui a bien fonctionné, Mbappé est capable de faire ce qu'a fait Martial hier soir, mais sans doute en le faisant mieux et plus souvent, avec plus de vitesse et de précision, est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce que c'est son registre? Parce que si la France joue avec des pistons dans les couloirs, il y aura moins d'espace à gauche pour Mbappé, il devra plus aller dans l'axe, plus combiner et donc jouer dans l'échange, dans le collectif. Est-ce que c'est vraiment son jeu et est-ce que c'est là où il est le meilleur?
Mais il l'a fait en Coupe du Monde quand même un peu.
Il l'a fait, ouais,
mais il avait 3 ans de moins.
Il était encore
pas
un lieutenant à l'époque, c'était pas la star.
Il faut se rendre à l'évidence.
Il y a toute une série d'interrogations.
Même quand l'équipe de France n'est pas terrible, 9 fois sur 10, tu vas jouer face à des équipes regroupées qui jouent bas où tu auras très peu d'espace. Et quand tu as un joueur dont la caractéristique est de prendre de la vitesse et d'avoir du champ dans le dos des défenseurs, c'est un problème. Donc soit tu apprends à transformer ton jeu, à jouer avec les autres, à profiter de la qualité des mecs qui est autour
de
toi.
Ça s'appelle l'intelligence.
Voilà. Et puis tu réussis, soit tu t'enfermes dans ton défaut, dans ton état d'esprit un peu négatif.
Et tu progresses pas.
Le problème, c'est que depuis la fin de la Coupe du Monde, il progresse plus tellement.
On y reviendra.
Un petit peu sévère, mais.
Ah bon?
On va pas ouvrir un débat entièrement
la preuve,
sur ça.
Preuve, le match contre Reims,
on a juste commencé.
Il a progressé dans le jeu de tête, par exemple. Il a marqué.
Je te parle en équipe de France.
En équipe de France. C'est un peu différent.
Paris fait ce qu'il veut. Paris roule dans les couloirs d'auto.
Vous reviendrez pour nous parler de l'équipe de France
oui,
et des prochains
d'autres choses.
Et
oui,
des prochains matchs.
Tu peux nous parler de ce que tu veux. Ouais.
Ah, je vais rester. Là, tiens, pour le reste.
Ah, vous pouvez rester. En perspective, hein, pour cette équipe de France, ça sera le 7 octobre prochain. Un rendez-vous en demi-finale de la Ligue des Nations. Et ça sera
oui,
très drôle.
La Belgique.
Voilà, exactement. À la Juventus Stadium de Turin.
Non, on jouera pas un bloc bas. Hein.
Pour le coup.
En tout cas, avant d'aller faire un tour vers l'Afrique. Moi, j'aimerais vous proposer un hommage. Un hommage à un défenseur de légende, en tout cas pour une génération déjà un peu ancienne. Celle, en tout cas, qui est née au foot avec l'épopée des Verts qui avait fait vibrer la France. Et il y a beaucoup de nos auditeurs aussi qui ont suivi cette épopée des Verts dans les années, à la fin des années 70. Gérard Farizon est décédé à l'âge de 77 ans. Le premier d'une équipe légendaire, hein, puisque autour de lui, il avait Kurkovic, Piazza, Larquet, les frères Révelli, Janvion, Rocheteau. Écoutons, eh bien, un but qu'il avait inscrit, c'était face à Nantes. Ouais, et ils sont encore tous là. Il n'y a que Robert Herbin, hein, leur entraîneur, qui n'est plus là. Nantes-Saint-Etienne, c'était les grands sommets au MPSG de notre temps. C'était le 12 décembre 1976. C'était un but de Farizon.
C'est sur une pelouse enneigée, glissante, que Saint-Etienne livrait ce que l'on appelle un match à 4 points contre Nantes, qui était encore, avant-hier, le leader du championnat. Un centre-tir de Farizon que Bertrand Demann a poussé en corner symbolise cette équipe de Saint-Etienne en première mi-temps. Ça n'est plus Saint-Etienne flamboyant, mais c'est Saint-Etienne qui travaille, qui lutte pour remonter la pente. Bien à l'image de cette équipe, qui ne veut pas perdre un titre de champion auquel s'est habitué. Et regardez Farizon, le plus vieux de l'équipe. 30 mètres du but, un tir du pied droit. Bertrand Demann a vu le ballon un peu tard. Il s'était lancé trop tard en tout cas pour le capter. Et c'est le premier but réussi à la 23e minute par l'arrière-gauche Gérard Farizon, un symbole de cette équipe.
Un symbole de cette équipe et un symbole d'un football déjà vintage, comme on dit. Mais en tout cas, ça nous faisait plaisir de rendre hommage à ce monsieur. Et c'était Thierry Roland qui était aux commentaires. On va donc vers l'Afrique.
Match très important dans le groupe H entre le Congo et les favoris sénégalais. Sadio Mané pour le 3 et Sadio Mané qui marque. Sadio Mané qui permet au Sénégal de s'assurer le break à quelques minutes de la fin de cette rencontre et surtout de marquer son 25e but sous le maillot des Lions de la Teranga.
On l'a tous noté ici dans ce studio, hein, aux commentaires, notre ami Franck. Hein.
Ouais, mon compagnon de 30 ans de galère, Xavier Barret.
Galère à France Football, oui.
Pour ouais, notamment.
Xavier Barret qui commentait ce match. Alors on va vers l'Afrique et vers ces mondialistes. On en avait parlé au début en se disant, bon bah les mondialistes, les 5 qui étaient à la dernière Coupe du Monde, le seront-ils encore? Ils ont plutôt réalisé un presque sans faute, sauf le Maroc. Mais là, évidemment, le Maroc n'a pas pu jouer en Guinée, donc on le sort de cette liste. Celui qui a fait presque un sans faute, c'est l'Égypte, et nous y reviendrons. En tout cas, 2 victoires pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga, vainqueurs à Brazzaville contre le Congo, 3-1, après avoir vaincu, on s'en souvient, les éperviers du Togo sur leur pelouse de Thiès. Sadio Mané a encore marqué, comptant le raid des Lions, au micro de Jean Ruffin Loemba, puisque c'était à Brazzaville.
On a fait l'essentiel, on a gagné le match. Ça n'a pas été un match facile parce que le Congo était bien en place. Ils étaient bien engagés, donc heureusement, on s'est créé pas mal d'occasions. On a marqué 3, je pense qu'on méritait de gagner ce soir. Oui, on est content, on est premier donc, pour le moment, donc on va essayer de continuer sur cette lancée.
Quelle note mettre à ces vainqueurs Parce que la question qui revient toujours autour du Sénégal, c'est bon, ils gagnent, et puis un petit peu sur leur style de jeu.
Ben, je trouve que Sadio Mané est assez honnête dans sa réaction quand il dit « on a fait l'essentiel ». Oui, ils ont fait l'essentiel, ils ont gagné, ils ont 6 points. Donc ça, au niveau comptable, le Sénégal fait un début parfait. Après, si on regarde un peu plus en détail, je trouve que c'est une équipe qui manque de maîtrise et qui manque surtout d'allant collectif. C'est-à-dire que globalement, on comprend bien comment Aliou Cissé veut la faire jouer. Les postes sont pourvus, les joueurs jouent à leur poste.
Beaucoup de grands joueurs. On a vu là, par exemple, même à l'attaque, c'est les trois attaquants
qui a des gros trous d'air et des grosses phases de mollesse dans un match. Et qui procède plutôt quand elle réussit par fulgurance un peu individuelle. Et ça m'interroge. Moi, je sais pas, est-ce que ces joueurs ont vraiment envie de jouer ensemble? Il y a rien à dire. Moi, sur la composition, j'ai pas de reproche à faire. Je trouve qu'Aliou Cissé compose une équipe cohérente sur le papier. Mais une fois que le match commence, je reste sur ma faim. Et c'est bien d'avoir des joueurs de talent comme Sadio Mané, Ismaïla Assar, mais ça peut pas toujours suffire.
Franck?
Et tu parles de quelle séquence en fait? Tu parles de là, de ces deux matchs? Tu parles
je parlais du match d'hier, précisément.
Oui.
Qu'on a pu voir, qui était télévisé.
Bah, ça, après, qui sommes-nous pour mettre des notes, hein, après tout? On peut effectivement avoir l'analyse que tu as, puis aussi avoir l'analyse certainement des Sénégalais eux-mêmes, se dire, quand je dis les Sénégalais. Oui, c'est-à-dire, ils ont joué deux matchs, ils ont gagné les deux. Moi, j'ai trouvé quand même quelques vertus dans cette équipe, à défaut effectivement de jouer dans la, comme tu le disais, dans la continuité. Voilà, tu parles de fulgurance. Je trouve pas anormal qu'une équipe, à un moment donné, pendant quelques minutes, elle disparaisse un petit peu. Mais pour les avoir vus le match d'avant, puis là,
ils se sont fait bouger quand même, Franck. Si tu tiens la balle et que t'es tranquille, tu peux avoir un temps faible, mais
tout le monde se fait bouger.
On peut avoir un temps faible choisi, mais là, j'ai l'impression que les temps faibles sont plutôt subis. C'est ça qui m'interroge.
Ce n'est pas une équipe d'extraterrestres, quoi qu'en pensent les gens.
Mais le Congo,
l'Algérie ne l'est pas.
Le Congo ne l'est pas. Et
du coup, ça me semble pas non plus anormal que cette équipe du Congo, il y a des moments, elle prenne un petit peu, elle les bouge, quoi. C'est loin d'être un désastre quand même par rapport à ce qu'on a vu.
J'ai pas dit ça.
Non. Mais je trouve que sur les derniers mois, c'est peut-être un chouïa sévère.
Pour moi, le point positif, si on doit en retenir un, c'est la bonne intégration et la montée en puissance de Boulaïdia, qui a mis son premier but et qui, en club aussi, est dans une bonne séquence.
Il a du temps de jeu, il est dans la continuité de ça. Ils avaient un problème à remplacer
Mbaïnyang depuis la Coupe du Monde, puisque Mbaïnyang est en club et à la cave. Hein. Ouais. Et là, je pense qu'ils ont trouvé un finisseur qui peut leur donner des espoirs, absolument.
Il y a quand même une vraie différence avec l'Algérie. Franck parle de l'Algérie, c'est que l'Algérie est forte collectivement, elle a une vraie maîtrise sur le jeu, elle pour le coup elle peut choisir de laisser le ballon et de subir sur 5-10 minutes.
Elle choisit cet enfer.
Elle contrôle le match, même si elle peut se faire bouger, le Burkina Faso en a un parfait exemple.
Ce qui est un peu
dérangeant avec le Sénégal, c'est que au regard des joueurs qu'ils ont, on aimerait qu'ils fassent comme l'Algérie, qu'ils aient une totale maîtrise du match, et ils l'ont pas. Ça repose sur des fulgurances. Sadio Mané, qui marque beaucoup, beaucoup de buts sur les dernières fenêtres internationales, c'est 6 sur les 8 derniers matchs, c'est beaucoup, mais c'est pas un créateur. C'est pas un Griezmann, justement. On dit Griezmann, c'est un joueur d'axe, c'est pas de côté. Mané, il est beaucoup plus fort sur un côté que quand il est dans l'axe.
C'est pour ça qu'on aimerait bien voir, par exemple. Tu n'as pas Matar Sarr, j'aimerais bien le voir dans l'axe, par exemple. Tu n'as pas aujourd'hui
ce milieu de terrain qui peut posséder le ballon comme l'Algérie peut le faire, notamment.
Oui, mais ce que tu ne dis pas dans ton analyse, et Dieu sait que je partage dans le fond ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, c'est que, si tu veux, collectivement, l'Algérie, elle existe avec ses mêmes joueurs depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas le cas de l'équipe du Sénégal, puisque c'est une équipe où, justement, Aliou Cissé, depuis plusieurs années, tâtonne, essaye, il l'a encore fait lors de la fenêtre internationale du mois de juin, où là, il a fait appel à de nouveaux joueurs. Donc, forcément, t'as moins de certitude, quoi. Après, bon, c'est sûr que c'est moins fort.
Bon, on y reviendra, c'est promis, au Sénégal, parce que je crois qu'ils vont rejouer dans pas longtemps. Le Nigeria, les Super Eagles, toujours au rendez-vous des Coupes
les
du
cyber.
Monde.
Les cyber. C'est ce que vous avez dit, les cyber.
Les
super.
Pardon, les super.
Oui, non, c'est
super
une blague.
Eagles, pardon. En tout cas, au rendez-vous des Coupes du Monde, hein, on a l'habitude de les voir. Je crois qu'ils n'étaient pas là en 2006, on avait vérifié, mais en tout cas, ils ont l'habitude d'être là et on a l'habitude de les voir. Eh bien, ils étaient au Cap-Vert et c'était notamment pour la 100e sélection du numéro 7, Ahmed Moussa. Ils ont fêté cette 100e sélection avec une victoire. Thank you. Alors, une victoire, mais quand même, Franck, grâce malheureusement à un but gag, comme on dit dans notre verbiage, des requins bleus. Je m'adresse à vous parce qu'il y a un gardien là. Le pauvre, ouais. Vous l'avez largement plein hier soir, j'imagine.
Bah, ouais, c'est-à-dire qu'après, ils s'en foutent, hein, les Nigérians. Ils s'imposent. Hein, donc, ils sont dans la continuité du match d'avant où ils ont
joué sur place un
super
du
terrain aussi, d'ailleurs. Tiens, petite parenthèse à Lego Super Terrain. Ouais, ils gagnent sur un but gag, une passe en retrait, mais très très longue. On ne sait même pas qu'est-ce qu'elle vient faire à ce moment-là, cette passe.
En plus, je peux même te dire un truc, c'est je pense que le gardien, qui peut pas mettre les mains parce que ça vient de son défenseur, il peut quand même, ne serait-ce que s'il fait une tête plongeante ou quelque chose, sortir le ballon. Dès qu'il est très avancé et en plus, il revient très bizarrement.
Oui, oui.
Et sur le premier but,
qu'est-ce que tu veux dire ?
C'est un moment de panique aussi, non ?
Oui, ça, bah, la passe, c'est une horreur. Même un gardien amateur, je lui souhaite pas ça. Donc, c'est une horreur.
Mais
c'est d'autant plus terrible que sur le premier but, le gardien, il fait un premier arrêt. Bon, ça se termine dans les pieds d'Osimhen.
Ouais, il faut chasser côté et puis, voilà, lui en mettre devant.
Et pour le coup, le Nigeria, qui a gagné, a pas fait un grand match. Le jeu du Nigeria, ça reposait beaucoup sur envoyer des très longs ballons sur Osimhen. Alors, la défense du Cap-Vert se prêtait aussi à ce que ça puisse passer.
Ça fait un moment, non, qu'ils sont pas très bons, les Nigérians.
Ils ont été plutôt bons, je trouve, contre le Liberia à domicile.
Mais là, pour le coup, hier, c'était pas fou. Ouais,
c'était Liberia.
Au moins efficace.
Ça se joue à une poignée de centimètres que le Cap-Vert revienne pas en toute fin de match sur une tête qui doit passer peut-être à 30 centimètres grand max. Donc, en gros, ils ont réussi à gagner un match face à une équipe qui était largement à leur portée, mais sans briller, avec des buts qui sont donnés. C'est plus qu'une bonne opération, parce qu'il y a eu 3-4 plans sur la tête de Gernot Rohr pendant le match. C'était pas la tête de l'entraîneur satisfait
après,
de ce qu'il voit.
Vous avez vu la composition de l'équipe, là aussi. Hein, c'est du laboratoire en ce moment.
Oui,
là.
Il manquait du monde.
Il manquait beaucoup
au
de
milieu,
monde.
Hein. Notamment. Après, le Cap-Vert, ce gardien de but de Vosinha avait déjà fait une faute de main contre la Centrafrique lors de la première journée qui avait amené le but de Toro Pité. Donc, voilà, il est peut-être pas très bien dans sa tête en ce moment.
Mais pas mieux, quoi.
Ah non, j'ai pas dit ça, mais je pense qu'il était déjà un peu en manque de confiance après son erreur du précédent match.
Autre mondialiste qui l'a emporté tranquillement, c'est la Tunisie. Nous n'avons pas, noté.
Tranquillement, pas vraiment, parce que la Zambie a bien bougé cette équipe et la Tunisie a dû surtout son succès.
Ah non, j'ai pas dit
défense,
tranquillement, je dis juste qu'ils ont aligné deux victoires. Alors, ce ne sont pas des mondialistes, mais quand même, on avait envie d'évoquer une équipe, et Franck, on en a parlé avant cette émission, c'est quand même les Chevaliers de la Méditerranée.
Chevaliers du ciel, ouais.
Oui. Du ciel.
Ils s'envolent,
c'est très
là,
beau.
Ouais. Bah, c'est bien.
Ils avaient battu le Gabon à domicile, à leur premier match en plus, hein. C'était le retour à Benghazi. Et puis là, ils sont allés gagner.
C'était pas leur retour, non, parce qu'il y avait eu déjà
notamment
contre la Tunisie qui les avait giflés là-bas, dans ce stade de Benghazi.
Je pensais que c'était le premier, derniers temps, ils jouaient beaucoup en Tunisie, justement.
Exactement, c'était la fin d'un banc trop long, d'ailleurs.
Oui,
retour à la maison, là, en plus, avec du public, ils avaient battu le Gabon. Bon.
Et là, ils sont allés l'emporter, en plus, en Angola, les Palancas Negras.
Mais pareil, là, c'est un hold-up. Hein. C'est un hold-up. Je sais pas si tu as vu le match. Hein.
C'est
un hold-up. En fait, ils marquent un but, d'accord, très bien. Mais derrière ça, ils se font chahuter toute la seconde période.
Alors, ils sont comment, ces Chevaliers du Ciel, Franck?
Ça vole bas quand même, hein. Ça vole très très bas. Mais ce qu'il y a, c'est que.
Forme du radada.
Non, c'est le retour de Javier Clemente, de l'entraîneur espagnol sur ce banc.
Ils avaient gagné le Chan.
Ils avaient gagné le Chan avec lui. Bon, ne pas oublier non plus que, entre temps, depuis le printemps dernier, t'as eu le retour d'un championnat national quand même en Libye. Ça aide aussi d'avoir un peu de compétitivité. D'avoir de la concurrence avec les joueurs qui ne sont pas justement en Libye, et Dieu sait qu'il y a du talent ailleurs. Je pense à Amdou
Elouni, l'ailier gauche de l'Espérance de Tunis.
Sanou Harfali, l'ancien du Raja, qui a marqué d'ailleurs le but victorieux contre
certains joueurs aussi qui ont été expatriés en Europe, notamment au Portugal, où il y avait une filière libyenne
comme
dans
Moitassem.
Donc c'est un football qui s'ouvre, hein, le football libyen, les clubs
qui n'est pas connu, c'est ça le souci,
malheureusement,
pour des raisons.
Bon, la Libye, en tout cas, est devant l'Égypte pour l'instant.
Qui l'eût cru.
Juste un petit mot, parce que le temps, malheureusement, est devenu très court, soudain, avec vous. Les Pharaons, ils ont retrouvé un sélectionneur, Carlos Queiroz.
C'est vous qui me l'avez dit, ouais. Je savais pas que c'était lui. Carlos Queiroz.
L'ancien adjoint de Ferguson à Manchester.
Ouais, qui a fait l'Afrique du Sud, qui est un Africain.
Qui avait fait l'Iran, également.
L'Iran, notamment. Exactement, qui les avait qualifiés en Coupe du Monde.
2000 à 2002, l'Afrique du Sud.
C'est un bon choix. Franck,
ah, on verra.
Il a fait du très bon travail avec l'Iran.
Tout non, oui, il a toujours.
Mais dans la continuité.
C'est pas vrai, Cooper. Voilà. Pour le coup, c'est pas Hector Cooper, c'est pas tout le monde derrière. Et puis on
non,
non, non. Pour le coup, lui, il essaye de proposer des trucs.
On jugera après.
Après, ça marche ou ça marche pas.
Après, à la fin des éliminatoires et de la Coupe d'Afrique des Nations.
Qui pour saluer la prouesse des étalons qui ont résisté à l'Algérie?
Bravo.
Naïm.
Ouais, ben ils ont. En fait, c'est les deux équipes ont eu chacune leur mi-temps. Parce que la vérité, c'est que si l'Algérie mène 3-0 à la mi-temps, il y a rien à dire.
Ils ont
eu toutes les occasions. Et puis après, ils ont un peu plongé physiquement. Et puis après, des individualités qui étaient peut-être un petit peu courtes. Mahrez a pas fait un grand match pour le coup.
Mahrez a pas fait un grand match. Ben Sebaini était proche du rouge et il aurait pu.
Il est un peu sorti de son match aussi.
Il est sorti de son match. Il aurait pu.
Il aurait pu se faire démolir aussi sur un tacle très malheureux.
Et puis je trouve que le milieu. Benacer n'a pas retrouvé le niveau qui était sien à la CAN.
Je voulais que vous me parliez des étalons.
Bah les étalons, moi j'ai remarqué
que l'Algérie et ses 29 matchs.
Il faut parler de la colonne vertébrale.
Pourtant, ils avaient beaucoup d'absents. Hein. Il y avait beaucoup de cadres absents. Tapsoba en défense, Caboret au milieu, les frères Traoré. Issa Caboré, l'autre Caboré a été très bon sur son
comme
côté.
Comme contre le Niger, il a été dans la continuité.
Absolument, et je trouve que c'est une équipe qui a une vraie âme, cette équipe. Et même s'il manque des joueurs, même si d'une génération à l'autre, on garde un état d'esprit.
Bravo à Kamou Malo, tout simplement, voilà. À son sélectionneur, voilà, qui travaille bien.
Alors, je suis désolée, on va devoir passer au-dessus des Morabitoun, mais on y reviendra, parce que je voudrais quand même terminer avec nos amis Barea. Alefa Barea, certes, mais les ébus malgaches, emmenés par notre ami, collègue Eric Rabé-Sandratana, eh bien, ils ont vécu, on peut dire, un match un peu fou en Tanzanie, avec sans doute le pénalty le plus rapide de l'histoire au bout de 5 secondes. Écoutez la colère d'Eric Rabé-Sandratana, un peu furieux. Son groupe était mené 2-0, ils sont revenus à 2-2 et ils finissent par perdre 3-2.
Je pense qu'on a réalisé une performance très très loin de ce qu'on est capable de faire normalement. C'est plein de petites choses qui ne doivent pas exister. On est sur quand même 3 cadeaux pour l'adversaire aujourd'hui. On a pris 3 buts. Voilà, il y a des bonnes choses comme beaucoup de choses qui ne vont pas. Notamment sur certains comportements, dans la détermination, dans l'envie de ne pas perdre quoi. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de légèreté dans le comportement et on est très très loin de joueurs qui n'ont pas envie de perdre et qui ne sont pas là pour donner tout ce qu'il faut pour le maillot et pour le pays. Donc ça me dérange beaucoup.
Franck, vous comprenez sa colère à notre ami Rabé ?
Oui, j'espère qu'il l'aura dit avant de s'exprimer, mais certainement. Ouais, non, et enfin, c'était des boulevards, c'était n'importe quoi en défense. Là.
Le
but encaissé, la faute.
Le pénalty.
Ouais, enfin c'est comment le gardien il peut sortir comme ça? Dans les écoles, dans les centres de formation, on apprend au gardien à sortir. Là,
vous le faites jamais, ça vous. Hein, Franck.
Je risque que pas. Je suis lourd comme un train de pomme. Okay, comment veux-tu que j'aille percuter quelqu'un? Alors ou alors sans le vouloir. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est des fautes professionnelles. Les trois buts, c'est trois erreurs.
Oui, c'est de la panique.
C'est dramatique. Enfin, je veux dire, chaque
but. Il perd les pédales, quoi.
Il y a pas. T'as pas de marquage. Enfin, c'est.
Oui,
c'est...
et puis il y a pas de. Je trouve que sur le terrain, il manque les Anglais disent un skipper, un mec qui tient la barre,
un taulier.
Et ça manque à cette équipe. Ça accrédite un peu la thèse de l'opération commando, c'est-à-dire de penser qu'à la CAN ça a fonctionné parce qu'on était dans une logique de tournoi, la CAN 2019.
Continuer sur ça.
Et quand ils n'ont pas cette motivation du tournoi et tout ça, on sent que c'est une équipe qui manque de concentration et ça va être le travail, d'Eric. Hein,
Ou d'un autre, s'il va rester.
Le travail, que ce soit d'Eric, qu'on embrasse hein, évidemment, parce que c'est pas facile d'être sélectionneur, mais. Je trouve quand même que c'est une équipe qui, dans le jeu, a plongé depuis 2 ans. En 2019, ils avaient pas tellement de joueurs
d'un
meilleur
niveau. Oui, parce qu'ils ont loupé la CAN, c'était avant Eric Rabé-Sandratana.
Mais je trouvais que ça proposait autre chose. C'est que moi, je veux bien qu'on ait des chantiers, qu'on mette de l'état d'esprit, machin. Mais il y a tellement de lacunes et de limites techniques dans le jeu, dans tous les secteurs d'ailleurs, que malheureusement, ça va être très compliqué. Hein,
Tu sais, forcément marqué, je pense aussi psychologiquement, par l'élimination, l'absence à cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Alors, il manquait... Eux qui avaient été quart de finale.
Oui, il manquait, alors c'était pas très bon, pas très beau ni très bon contre le Niger, le dernier match éliminatoire, mais il manquait beaucoup de monde. Derrière ça, il y a une rupture technique, on confie l'équipe à quelqu'un d'autre, et voilà, ça donne cette équipe qui flotte.
Qui flotte et qui doit se ressaisir. Merci, messieurs. On aurait pu continuer une heure encore, mais malheureusement, c'est pas possible. 2 heures. On se retrouve demain, nous. Merci à tous.
Se rencontrer, se parler.